Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Bonjour Ophéline Amblé.
Salut Julien Vidal.
Je suis très content de te recevoir dans le podcast. On est en 2030 glorieuse. J'ai l'habitude de rencontrer celles et ceux qui sont les signes faibles des mondes de demain. Et on va pas se mentir, on est toujours dans cet épisode d'épidémie du Covid-19 qui fait que je n'ai toujours pas la possibilité d'aller directement rencontrer les personnes que j'interviewe. C'est une grande frustration pour moi. Donc on utilise la technologie et finalement, quand elle est bien utilisée, cette technologie, on est content. Ça permet de rapprocher les gens. Et moi, je suis particulièrement content de te recevoir, Ophélie, parce que tu portes un projet qui est nécessaire pour ce fameux monde de demain dont on n'arrête pas de parler avec ta mère nature. Tu as également cofondé Les Invasives, dont on parlera tout à l'heure. Mais pour commencer, j'aime bien que les invités se définissent un petit peu et que les personnes qui nous écoutent comprennent un peu à quelle sauce ils vont être mangés. Toi, tu te définis sur les réseaux comme Urban Farmer, avec l'accent, notamment sur Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Ouais, tout d'abord un grand merci aussi. Je suis ravie qu'on se parle enfin. Et alors pour la faire courte, j'ai tout plaqué il y a 3 ans pour me reconvertir. Alors je disais que mon but c'était d'apprendre à faire pousser les légumes, sans trop savoir ce que j'allais en faire comme vrai métier. Donc je suis partie me former un peu à droite à gauche et j'ai raconté tout ça aussi en vidéo. Donc c'est pour ça que ma chaîne YouTube est née. Et elle s'est très vite appelée Ta Mère Nature. Et donc depuis, je suis à la fois entre de la création de contenu qui me fait vivre aussi. Donc je fais pas mal de vidéos et l'agriculture urbaine. Donc je travaille dans plein d'endroits différents. J'ai pu bosser pour différentes entreprises, différentes associations. Et là, aujourd'hui, je suis sur la création de mon propre projet de pépinière de quartier à Pantin, aux portes de Paris, dans un tiers-lieu. Et voilà, donc en fait, j'ai plein de casquettes et je suis passionnée par ce thème de la nature en ville. Comment retrouver, se reconnecter à la nature dans un espace qui peut sembler parfois hostile.
Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Tu racontes ta démarche, en fait.
Exact.
Tu te poses pas en tant que spécialiste, mais en fait, tu tends la main à toutes les personnes qui regardent tes vidéos pour découvrir avec toi et pour... j'aime bien cette expression, tu appelles les gens à se planter. Donc, tu dis, j'assume mes erreurs, j'assume que je vais apprendre plein de choses et que je vais revenir aussi sur plein de choses, mais c'est ce parcours d'apprentissage que tu as envie de donner à découvrir.
Carrément. C'était pas vraiment prévu, en fait. Hein. Ça s'est fait très naturellement. À l'origine, c'était une envie très personnelle de juste avoir un témoignage de mon changement, parce que c'était un gros changement de vie. J'ai vraiment littéralement tout plaqué. Et j'avais envie de me confronter un peu aussi à la caméra, à voir comment on monte, etc. Et donc, je me suis d'abord un peu forcée, entre guillemets, à me filmer tous les jours. Et finalement, en montrant ça à quelques amis, j'en ai notamment une qui m'a un peu dit « Mais vas-y, lance-toi, mets ça sur YouTube. Je pense que ça parlera à d'autres gens. Et puis toi, ça te permettra aussi de progresser, d'avoir des retours. » Et c'est comme ça que je me suis embarquée dans ce truc-là. Et c'est vrai que, en fait, c'est très... On sort un peu de ce truc-là, de la vie en général, où il faut toujours réussir, il faut toujours bien paraître. Et là, me confronter à tous mes échecs et à les mettre en lumière, littéralement, eh ben, ça m'a fait vachement de bien. C'était un peu cathartique, en fait.
Ouais.
Donc voilà, et maintenant, je le célèbre. Et c'est pour ça que je suis à fond pour célébrer les échecs. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer dans la vie. On se souvient d'ailleurs souvent plus de ses échecs que de ses réussites, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est des choses qui nous marquent, mais qui, pour moi, font vraiment progresser, en fait. Alors, c'est un peu un truc, un peu coaching à l'américaine. mais en France, on a tendance un peu à cacher nos échecs, à pas trop en parler, c'est tabou. Mais la nature, enfin, pour avoir discuté avec pas mal de maraîchers, au bout de 40 ans, ils me disent toujours qu'ils y connaissent rien, en fait. Et ça fait du bien un peu aussi, ce truc-là d'humilité, de se laisser un peu porter par le parcours, en fait, par la vie. Ça y est, les grandes phrases.
Ça y est, on est parti. Édouard Baird sort de ce corps. C'est ça que j'aime bien dans ta démarche, parce que tu es autant sur le fond que sur la forme, et autant sur le comment que le pourquoi. Et donc, tu parles d'engrais, de graines germées, de lombricompost, mais en utilisant un ton décalé, parfois loufoque, qui fait qu'il y a aussi, en fil conducteur, la nécessité de trouver la joie, en fait, dans cette démarche.
Mais complètement, je suis hyper contente qu'on parle de joie, parce que c'est même une forme de discipline pour moi que j'essaye de m'appliquer. Alors c'est pas, je parle pas du monde des bisounours où voilà, il faut à chaque fois chercher à être heureux à chaque seconde, parce que parfois la tristesse ou la colère, ça peut être aussi des super moteurs. Mais je pense que la joie, passer par la joie, c'est tu vois, dans le monde de l'écologie, on est souvent quand même dans l'injonction. Il faut faire attention à consommer telle chose et pas une autre. Il faut, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent parfois nous paralyser aussi quand on commence à y réfléchir. Ça m'est arrivé plein de fois de me retrouver en PLS pendant 3 jours parce que j'avais lu trop d'articles sur la maltraitance animale, par exemple. Et on se sent tellement, tu vois, accablé par tous ces problèmes qu'on sait plus trop comment s'y prendre. Et moi, ma clé, en fait, ma porte de sortie, c'est le jeu. C'est rendre les choses drôles, ludiques et accessibles, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on se remet dans l'action. C'est par ces petites choses qui nous procurent des joies d'enfant. Tu vois, la première fois que j'ai fait pousser un petit plant, hein, que j'ai vu une graine germer, mais j'avais envie de pleurer. J'étais joyeuse comme une enfant de 4 ans, quoi. Tu vois, de montrer aux gens qu'ils peuvent se réapproprier ça de manière très simple, sans être des experts. Ça peut faire beaucoup de bien et ce n'est qu'un début, tu vois. Après, on progresse forcément.
Écoute, je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis. Je t'avoue que je me suis beaucoup fait critiquer par les écolos sur l'intitulé de la démarche « Ça commence par moi » qui semblait très individualiste, individualisante. Et déjà, bon, bah, le fait de voir que parmi ce que tu penses être tes pairs, on passe beaucoup plus de temps à parler des 1% sur lesquels on n'est pas d'accord que des 99% sur lesquels on se rejoint, ça fait un peu mal. Mais en fait, là, ce commence par moi, là où j'ai peut-être pas été suffisamment compris, c'était de dire, bah, en fait, si on veut défendre le vivant, commençons par défendre l'incarnation du vivant que nous sommes nous-mêmes. Et donc, se rendre compte qu'on fait partie de ce tout et que nous, on a un contrôle direct sur notre vie et sur comment faire en sorte que cette vie, elle soit la mieux vécue, la plus sublimée possible, ça passe effectivement par remettre une démarche de quête proactive de joie au quotidien et plutôt que de continuer à accumuler des plaisirs vains. Là, c'est vraiment la démarche d'écologie spirituelle dans laquelle je me retrouve complètement. Et là, ce que tu me dis, ça montre que par rapport à ça, on est assez aligné, ça fait du bien. Donc pour ça, merci.
Mais complètement. Mais c'est un long chemin. C'est sûr que on commence d'abord par soi et on réfléchit, on incarne, on agit. Et c'est là qu'on se rend compte de la dimension collective ensuite. Mais c'est un chemin. Et c'est vrai que parfois, certains écolos sont peut-être plus avancés que d'autres et ont une tendance à juger, et c'est dommage.
Stratégiquement, en plus, si on veut réussir à faire masse et vraiment réussir à être une majorité à défendre ses valeurs de respect du vivant, en fait, il faut qu'on se préserve. On est en train de faire un marathon plutôt qu'un sprint. Et donc, du coup, si tous les écolos font un burn-out et dépriment et explosent en plein vol au bout de 6 mois, ça marchera jamais. Donc, il y a aussi comment on arrive à trouver un équilibre personnel qui peut alimenter ce collectif dont on a tant besoin.
Complètement. C'est pour ça que je me coupe parfois des lectures et des infos sur l'état de la planète, parce que parfois ça peut me ralentir en fait dans mes actions. Et c'est ça, c'est trouver cette balance entre s'informer pour continuer d'agir et avoir aussi parfois cette colère qui nous sert de moteur. Et en même temps, savoir prendre du recul et retrouver vraiment une joie du quotidien, en fait. Et une forme de dignité du quotidien.
C'est une ligne de crête permanente hein, d'être sur ce cheminement écolo. On doit, tu le disais, réduire. Et donc, il y a un peu cette austérité qui fait peur et la culpabilité qui va avec parce qu'en fait, ça éclaire drôlement notre mode de vie surconsommériste. On doit... parfois lutter, protéger, mais aussi régénérer. La lutte, ça fait quand même partie. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut tout faire. Et la lutte, ça fait partie de cette démarche écolo. Et toi, notamment, tu as écrit un livre hein, qui va un peu dans cette tendance. Tu reprends le terme de guérilla pour ton livre Guérilla Green. C'est vrai que c'est des fois aussi un peu la bagarre hein, de remettre la nature en ville.
Alors oui, je n'ai pas inventé ce mot. La guérilla green ou green guérilla, c'est un mouvement qui est né dans les années 70. Donc qui est quand même relativement vieux. C'est un mot qui a été apporté par une bande de jeunes new-yorkais. C'était à l'époque où on parlait pas mal de Che Guevara, des guérillas. Et là, l'idée, c'était de réinvestir la ville de New York, qui à l'époque était pas du tout dans un délire Sex and the City, mais où il y avait quand même pas mal de misère. Cette bande de jeunes se sont réemparés d'une friche, d'un terrain vague, et ils y ont créé un jardin qui existe encore aujourd'hui. Et c'est ça, et c'est de dire, la ville nous appartient, à nous d'en faire quelque chose de beau pour tous et toutes, et que voilà, ces milieux hostiles, ces milieux qui ont pu être abandonnés par les pouvoirs publics, on peut voir aussi, il y a plein de jardins qui émergent à Détroit, par exemple, donc sur ces terrains un peu qui ont été maltraités, les gens reconstruisent des choses pour eux, pour la communauté. Il y a vraiment cette dimension de lien social aussi que je trouve très forte. La ville, ça sera toujours compliqué en fait de répondre aux enjeux. Alors on en parlera peut-être plus tard, mais d'autonomie alimentaire parce que c'est des lieux qui sont très denses au niveau population. Mais c'est là aussi où on peut recréer ce lien qui a été brisé. Et tu vois, ça me fait penser, on parlait de joie tout à l'heure, ça me fait penser à un groupe qui s'appelle Idols, un groupe de rock, et dont un des titres d'album s'appelle Joy as an Act of Resistance. Et pour moi, il y a vraiment ce truc-là de jardiner, célébrer, être dans la joie, c'est une forme de résistance pour moi, face à ce monde en péril. Et c'est des choses qu'il faut chérir, en fait. Même si c'est des tout petites choses, tu vois, juste danser 10 minutes par jour ou aller mettre un bac en bas de son immeuble où il y a trois bouts de persil et du romarin. Mais toutes ces choses, c'est des petits actes de résistance et c'est une forme de désobéissance civile pour moi, vraiment quoi.
Et comment ça t'est venu, cette envie soudaine de se reconnecter à la nature, de remettre cette nature au cœur de ta vie et donc du coup aussi au cœur de ta ville ?
Alors moi, je viens pas de la ville à l'origine. Je suis née en Ariège, au pied des Pyrénées. J'ai passé mon enfance là-bas jusqu'à mes 17 ans. Et la nature, tu vois, j'étais née là, et donc j'y faisais pas spécialement attention. Et mon rêve adolescente, c'était de monter à la capitale pour profiter des concerts, des expos, du monde aussi, parce que je me sentais coupée de ce monde-là.
Mais on veut toujours ce qu'on n'a pas. Hein.
Exactement. Et je me suis éclatée quand je suis montée après le bac à la capitale. C'était génial de découvrir toute cette espèce d'ébullition, d'énergie, d'opportunités de tous les côtés. Donc, j'adore cette énergie de la ville. Mais il y a eu un moment aussi où j'ai fini par la subir, cette énergie, à passer mon temps dans une boîte, tu vois, aller dans le métro, aller dans un bureau, m'enfermer dans des petites salles. Et il y a eu cette sensation à un moment d'étouffement, quoi, de plus savoir qui je suis, d'être trop coupée aussi de la terre. On est tout le temps coupé en fait en ville. Et donc ça a été un vrai mal-être physique, quoi, vraiment où je me sentais un fantôme. J'étais plus moi, quoi. Donc ça a été, tu vois, un long parcours. Donc j'ai dû partir de la ville pour réapprendre à l'aimer, à réavoir envie d'y revenir pour la changer, pour participer à sa transformation. Et aujourd'hui, je pense avoir trouvé un juste équilibre entre continuer de vouloir profiter de cette énergie, de toute cette offre culturelle, de tout ce monde aussi. Et en même temps, y ramener de la nature, quoi, parce qu'on en souffre tous. Et c'est prouvé, il y a plein d'études scientifiques qui prouvent que la nature, on en a besoin vraiment, hein, c'est ce qui nous rend heureux. Elle a des vrais pouvoirs thérapeutiques, la sylvothérapie, voilà, d'avoir un arbre en face de sa fenêtre, ça procure une vraie sensation de bonheur. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question. Je me suis un peu peut-être envolée dans...
Non, c'était... On y est complètement. Okay. L'idée de se dire, mais en fait, tu t'es écouté, tu avais ces choses-là qui étaient autour de toi, qui tout d'un coup t'ont manqué, et c'était comment recréer cet équilibre. Je crois que c'est fort d'arriver à s'écouter, parce que c'est vrai qu'on peut s'assécher et même plus se rendre compte et tourner en spirale dans un puits sans fond. Ça, c'est fort, je trouve, d'arriver à lever la tête et de dire à un moment, ben non, en fait, pas du tout, et puis je vais... décider de m'arrêter en me raccrochant à des choses qui sont tout le temps autour de nous, des branches qui nous permettent de remonter. Toi, c'est ce que tu as fait. Mais ouais, d'ailleurs, ouais. Tu t'es dit, au moment où je remonte, ok, je m'attaque à ce sujet de la place de la nature en ville et je vais creuser ces questions qui sont essentielles, mais pas que, hein, parce qu'en fait, tu as eu une démarche beaucoup plus complète sur la protection du vivant dans sa globalité, notamment la place des femmes dans notre société. Comment ça s'imbrique? Pourquoi le lien, il est évident pour toi?
Alors, pour moi, ouais, j'ai eu une espèce d'épiphanie quand j'étais en formation, et notamment quand j'ai commencé à me plonger dans les lectures écoféministes, et où j'ai compris que, alors dans mon passé, j'ai toujours évolué dans le milieu plutôt féministe. J'ai eu plein de groupes de musique dans le milieu du rock où on n'était que des filles. J'ai toujours eu besoin de m'affirmer à ce niveau-là. Et bam, je suis partie apprendre à faire pousser les légumes. Et j'arrivais pas trop à savoir. Pourquoi ce chemin? Et c'est vraiment avec ces lectures écoféministes où j'ai compris qu'en fait, donc selon ce mouvement, le droit des femmes et le droit de la nature sont à mettre en parallèle, puisqu'ils sont oppressés par les mêmes choses, à savoir le patriarcat et le capitalisme. Et ça, ça m'a beaucoup parlé. Et quand je le transpose au niveau de la ville, pour moi, la ville, en tant que femme, on l'a subie, parce qu'elle a été conçue par et pour les hommes. Et nous, la ville, on la traverse. On n'est jamais, par exemple, en train de stationner dans la rue. Auquel cas, on peut risquer de se faire emmerder. Une ville, on réfléchit toujours à nos déplacements. Comment on va s'habiller si on passe par telle ou telle rue. Et en fait, la Green Guérilla, et même plus largement, même l'agriculture urbaine, pour moi, c'est, en tant que femme, quand je jardine, quand je fais pousser des choses, je me réancre dans cet espace. C'est un peu philo, c'est un peu une métaphore, mais moi qui me porte beaucoup au quotidien, parce que il y a vraiment cette notion de se réenraciner dans un espace où j'avais pas ma place. Et donc c'est puissant, et je le vois même, tu vois, quand je fais vraiment de la green guérilla, donc dans l'espace public, il y a un truc qui se transforme au niveau du regard des hommes. Il y a plus cette notion de drague, ou en tout cas c'est très très rare. Et les gens viennent t'aborder parce que ils captent assez rapidement que tu fais quelque chose pour la communauté, qui est assez, tu vois, altruiste, un peu gratuit, et qui change un peu en fait cette donne du rapport homme-femme. Et c'est très puissant en fait. Moi, j'ai vraiment cette sensation de reprendre du pouvoir sur l'espace public quand je jardine. Tout en ce que ça soit très pacifiste, en fait. Je suis pas là pour imposer quoi que ce soit en tant que femme, mais à faire quelque chose de bon pour tout le monde, quoi.
Actuellement, le mouvement féministe, comme il est montré, pas forcément comme il se développe, mais comme il est montré, c'est vrai, beaucoup plus dans l'opposition et dans l'affirmation, ce qui me semble tout à fait nécessaire. Toi, tu y ajoutes une nouvelle dimension de pas de côté et de création pour en fait réunir les gens et rétablir le dialogue, en fait.
Complètement. Et là où la Green Guérilla, c'est un mouvement intéressant, c'est que pour moi, c'est vraiment un mouvement issu de la street culture. Donc au même titre que le graffiti ou le skate, c'est des lieux où on va réinvestir de la vie, et donc des lieux dans lesquels c'est souvent hostile. Et c'est là où on sort un peu aussi du cliché que le jardinage ou l'écologie, c'est un truc pour bourgeois, pour personnes qui ont le temps d'y penser, etc. Mais en fait, les jardins ouvriers, les jardins partagés, le jardinage, ça peut être, c'est fait, c'est pratiqué dans les cités, dans ces zones défavorisées, et c'est là où il y en a le plus besoin. Donc moi, j'avais juste envie de le mettre en lumière, ça, et de dire, enfin, j'habite dans le 18e, dans le quartier de la Goutte d'Or, et je vois plein de petites choses qui sont mises en place par les gens du quartier, et c'est vraiment pas forcément les bobos qui lisent Télérama, dont je peux faire partie. Non, c'est aussi vraiment les papis du coin qui ont réinvesti une friche et qui font un peu de jardinage et jouent aux cartes toute l'après-midi et le soir font les distributions de repas gratuits avec la mosquée d'à côté. Et donc, en fait, c'est de pas oublier que, en fait, tous ces lieux qui sont un peu abandonnés ou dont on se fout un peu, eh ben, les habitants peuvent se les réapproprier et voilà, et que ce soit donc pour les plus faibles, pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde.
C'est hyper puissant. Ouais, c'est hyper puissant. Merci de ce témoignage. Ophélie, ça me donne envie là, de passer dans la deuxième partie. Ça me donne envie de partir en 2030 Glorieuse parce que je suis très curieux de savoir tout ce que tu vois, toi, quand tu t'y projettes en 2030 Glorieuse. Mais avant, on a toujours cette partie où tu nous fais un cadeau. L'invité arrive avec une parenthèse d'inspiration et il va nous offrir une fenêtre à travers la littérature. Et toi, tu es venu avec un roman particulier. Hein.
Oui, alors ça, tu m'as posé une colle hein, quand tu m'as demandé ce qu'il fallait que je choisisse comme bouquin, parce qu'habituellement, je lis beaucoup d'essais plus que des romans. Mais c'est bien, ça a été un super exercice de réfléchir à comment j'imaginais le futur, parce que pour l'instant, je suis plus dans l'analyse en fait, de ce qui se passe. Et ça m'a fait du bien de sortir de tout ça. Et du coup, j'aimerais te lire et vous lire un extrait du roman « Demande à la nuit » qui a été écrit par Anne-Laure Jaeglé. Et je pense que, comme toi, je vais mal prononcer peut-être le nom. Mais en fait, c'est un livre qui n'a rien à voir avec l'écologie, mais qui parle plutôt du monde de la nuit, et plus particulièrement à Berlin. Donc le monde de la nuit, de la techno, de la fête. Et donc c'est l'histoire d'une nana qui se donne à la fête et à la nuit. Et il y a une forme pour moi aussi d'activisme politique en fait là-dedans. Est une montagne russe. Le vent fouette mon visage, mes fesses décollent du siège. Les transitions subliminales donnent naissance à des traces hybrides, mutantes. Chaque élément porté à son point d'ébullition, comme une sauce ou un orage. L'art de gérer la collision de deux univers, deux histoires. La rencontre de deux traces est une rencontre amoureuse. Là aussi, il s'agit de vibrer à la même fréquence pour un temps donné, sans qu'une piste n'ait à s'ajuster plus que l'autre. Le rythme brut me place au point zéro, sans jamais m'indiquer de direction particulière. Le corps prend entièrement les devants sur l'esprit. Mes poings battent l'air, mes bras parent des coups invisibles. Mes épaules deviennent lourdes, leur roulement m'enfonce au plus profond de la terre. Danse dénuée d'intention, vitale et substantielle. Pour survivre à l'époque actuelle, devenons machines. Rien de plus efficace que la techno pour me synchroniser avec la nature, par-delà l'humain. Le bruit du rail, le martèlement de la tôle ne sont que la réactualisation d'un tam-tam ancestral. Je suis en transe. Subtile variation dans le froissement sonore, cascabelle du serpent à sonnette, évanouissement progressif de l'hélice hypnotique jusqu'au vol plané. Merde à l'esprit. Ne reste que ma propre mécanique qui ondule au rythme du battement répétitif. Je prends racine dans la perspective même que rien n'est stable. Commutation céleste. Montée mélodique. Tout se relie en moi de haut en bas, de gauche à droite et à travers. Mon sexe, mon cœur, mon cerveau en symbiose parfaite. La techno rassemble une armée de guerriers pacifiques munis de lourdes massues pour abattre le rempart entre intérieur et extérieur. Sans cesse, les DJ épongent le lyrisme de production de Marcus Vorgul, Baïkal, Chimera ou John Charnis, avec la noirceur et les percus paranoïaques, de remix de vieux de la vieille comme Roman Flügel, John Terrada et Layo et Bushwaka. Certains titres reviennent deux fois pour encadrer l'épopée musicale. La mise en musique de ma violence inhérente de la rage profonde et fertile qui m'habite. Faire s'effondrer le château de cartes, briser le masque social consolidé durant plus d'une décennie. C'est ainsi que je serai heureuse. Ainsi que je deviendrai sérieuse.
Merci Ophélie pour cette lecture. C'est fou, hein. Tu parlais tout à l'heure de la joie et de la fête qui sont une résistance. Ici, la connexion à la musique et l'abandon passe par l'utilisation d'un vocabulaire qui est très lié à la nature, hein.
Exactement. Tu vois, c'est particulier parce que ce livre, il parle beaucoup des tréfonds de la fête, de la drogue, d'une jeunesse un peu paumée, mais finalement qui aussi se retrouve à un moment. Et qui se retrouve dans un état presque animal, ouais, proche de la nature, de la transe, ouais, de quelque chose d'ancestral, comme elle dit. Et j'ai trouvé ça très puissant parce que c'est parfois dans ces moments-là où aussi on se reconnecte, en fait.
Absolument. Se laisser aller, retrouver ses instincts.
Exactement.
Le côté primitif du tam-tam qui se retrouve dans le bruit du rail, c'est, ouais, c'est très poétique. Merci pour cette lecture. On va garder cette énergie, cette atmosphère que la lecture a créée pour en profiter et partir en 2030 glorieuse. Alors, je sais hein, que nous, les Français, on n'est pas très habitués à laisser libre cours à notre optimisme et qu'on a tendance à s'excuser d'être de temps en temps positif, pas naïf, mais au petit réaliste, comme le dirait Jacques Lecomte, on fait cet essai, hein, Ophélie, c'est vraiment entre nous, hein. Personne ne nous écoute hein, d'ailleurs, tu le sais, et puis de toute manière, je pense que personne ne nous en voudra si dans 10 ans, on se rend compte qu'on s'est trompé, mais voilà, allons-y pleinement. Moi, je dis toujours, bah, ça y est, là, on y est en 2030 glorieuse. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as senti les légères vibrations de ton siège.
Ah oui.
Hein, tu les as sentis, hein, je le savais.
Je les ai sentis, c'était puissant.
et tu ouvres les yeux et la première chose que tu vois, c'est quoi, toi ?
Attends, il faut que je m'y remette. Qu'est-ce que je vois ? Je vois... Eh bien, tu vois toujours ça, en fait. Cette dimension industrielle. J'adore les paysages industriels, mais qui sont recouverts de plantes de tous les côtés. Je vois une nature qui a réinvesti un peu comme Tchernobyl, tu vois.
Ouais.
Tous ces espaces qui ont finalement un peu explosé et où la nature a un peu repris le dessus. C'est comme ça, mais je m'y vois aussi avec plein de gens. J'ai toujours vécu en colocation. Donc la notion de communauté, elle a toujours été présente chez moi et je ne me vois que vivre comme ça. Soit dans une géante colocation ou dans un écolieu, un lieu que je partage avec plein d'autres gens qui ne seront pas forcément que ma famille. Enfin, ce sera une nouvelle famille en tout cas. Mais ouais, j'y vois beaucoup de vestiges en fait de notre ère industrielle qui est une forme de beauté aussi quelque part, mais qui a été rebouffé par la nature.
Oui, nous, on a été habitués à voir la nature organisée, sage et rangée. Ce que tu as envie de voir, c'est le bordel organisé de la nature, c'est son côté luxuriant, son côté foisonnant, j'ai l'impression hein, qu'il reprenne sa place dans notre espace de vie.
Exactement, et ça, tu vois, pour le coup, on n'est pas en 2030, mais on est aujourd'hui, et c'est un truc qui me fascine, c'est que j'ai changé de regard sur la ville. Avant, la nature, j'avais besoin d'aller soit en forêt, soit dans des parcs pour m'y reconnecter. Mais maintenant, je la vois partout, et y compris en plein milieu de Barbès-Rochechouart, où en fait, tu as des petites invasives qui sortent des fissures des murs. Si tu regardes un petit peu autour de toi, il y a toujours des herbes folles qui sortent des fissures. Et dès qu'il y a un petit morceau de terre, en fait, les plantes la réinvestissent. Et ça me fascine et je trouve que ça aussi, c'est un message d'espoir. C'est que, en fait, quoi qu'il arrive, la nature, elle sera toujours là pour reprendre le dessus. Et c'est en ça où il faut aussi apprendre à être humble face à elle et à vivre avec elle, parce que en fait, on n'aura pas le choix. On est obligé de faire avec elle. Donc j'adore en fait ce truc-là de me dire qu'elle est partout, la nature, et on a juste à changer de regard, quoi.
La végétalisation, c'est une connexion à la nature, et donc le remettre au cœur de la ville, ça a du sens par rapport à ça. Mais c'est aussi un enjeu hein, pour la création, notamment d'îlots de fraîcheur contre le réchauffement climatique qui sera là dans les prochaines décennies. Et c'est aussi un enjeu, tu en parlais tout à l'heure, en 2030 glorieuse en particulier, pour l'autonomie alimentaire. Alors comment on fait pour produire un petit peu plus de nourriture à proximité de nos lieux de vie ?
C'est un gros enjeu, je le dis souvent, mais Paris a 3 jours d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que si on coupe des frontières imaginaires de Paris, on a vraiment 3 jours de subsistance. Donc c'est très effrayant. Après, il faut aussi prendre du recul et se dire que les villes seront de plus en plus denses et donc il y aura de moins en moins d'espace où cultiver. C'est là où l'agriculture urbaine peut apporter des niches en fait de solutions, des petits coups de pouce, et donc je la vois comme une passerelle aussi avec le monde rural agricole. Mais c'est très compliqué de répondre à ces enjeux d'autonomie, parce que je pense clairement que la ville ne peut pas y répondre. Au 19e siècle, oui, parce qu'on était moins nombreux, mais plus maintenant. Donc ce que je vois dans l'agriculture urbaine par exemple, c'est quand je dis niche, c'est qu'il y en a certains qui vont se spécialiser sur la culture de champignons et d'endives dans des parkings souterrains par exemple, ou alors certains qui vont se plonger dans les aromatiques, la culture du safran, et donc pouvoir répondre à une demande très précise. Mais par exemple pour de la culture de céréales, ce serait très compliqué de faire ça à Paris parce qu'il y a tout simplement pas assez d'espace. Après, parfois, il y a une opposition qu'on met entre l'agriculture urbaine et l'agriculture rurale. Alors, je pense qu'au contraire, c'est juste un lien où justement les gens peuvent se reconnecter au monde agricole via toutes ces fermes urbaines qui sont en plus souvent implantées dans des lieux un peu hybrides. Quand on dit tiers-lieu, par exemple, donc c'est des lieux où on accueille des concerts, des bureaux. Et s'il y a aussi une ferme urbaine, mais c'est la possibilité aussi que les gens viennent participer à des ateliers, se former un petit peu, comprendre en fait comment pousse une tomate. Franchement, moi, il y a trois ans, j'avais oublié, hein, quand je suis repartie à la campagne me former. Pourtant, j'ai vécu à la campagne, mais j'avais complètement zappé comment on fait pousser une tomate. Et le citadin, il est vraiment en manque de ça. Et de toute façon, tant qu'on n'a pas pris conscience de comment sont faites les choses, on ne peut pas acheter un produit en pleine conscience. C'est-à-dire, on ne peut pas donner des injonctions aux gens en leur disant...
Est-ce que tu as entendu parler du mouvement des Victory Gardens, les Jardins de la Victoire, qui pendant la dernière guerre mondiale ont été un symbole de la résistance et de la réappropriation de l'alimentation par les urbains notamment? Il y a eu ce mouvement au Canada, aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni et en moindre mesure en France. Les gens se sont mis symbole de la résistance à jardiner tout et partout, à tel point qu'ils ont réussi à remettre au cœur de la ville la moitié de l'alimentation nécessaire pour tous les urbains. Tu as entendu parler de ça ?
Exact. C'est de la green guérilla pour moi, donc complètement. Et si on se projette en 2030, moi je rêve de gens qui débétonisent en fait. Moi je suis pour qu'on pète les routes et qu'on y remette des plantes à la place des voitures. Et d'ailleurs il y a un mouvement qui s'appelle le Parking Day, qui est une journée nationale, donc c'est en fin septembre il me semble, où partout dans le monde, l'idée c'est de payer à le rodateur une place de parking et de l'investir avec ses amis pour y mettre des plantes, occuper la place que prendrait normalement une voiture. Et j'aime cette idée que voilà, nous, les humains, les habitants, les voisins, les potes, on prenne tous ces espaces qui ont été trop pris par les machines, par le béton. Et t'as certaines formes de guérilla green qui sont très engagées et qui font par exemple pousser du bambou, parce que le bambou a un fort pouvoir, il se répand très facilement et il peut vraiment casser le béton. Et j'aime cette idée, en fait, que la nature, elle vienne tout péter, quoi. Et en plus, on peut vraiment répondre à certaines formes de, d'enjeux alimentaires. Et c'est vrai qu'à Cuba, par exemple, tout ce qui est produit à l'intérieur de la ville va à destination des prisons, hôpitaux et écoles. Donc, tout le service public est alimenté par les potagers de la ville. C'est quand même génial.
Ouais, c'est génial, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça nécessite, hein, c'est un lien fort entre le dynamisme citoyen, mais aussi il va falloir compter sur la créativité entrepreneuriale et le cadrage politique. Hein, ça doit être vraiment, ça aura fonctionné à condition que il y ait tous les secteurs de notre société qui se mettent en mouvement ensemble. Hein.
Complètement. Après, là-dessus, moi, je suis vraiment pour la désobéissance. C'est-à-dire que il ne faut pas attendre des politiques qu'ils nous tendent la main pour que les choses se passent. Et je pense au contraire que quand les habitants justement disent non et réinvestissent ces espaces, que là les choses peuvent changer. Je pense que les permis de végétaliser, par exemple, ça s'est fait à l'initiative déjà d'associations qui travaillaient depuis longtemps sur ce truc-là. Et c'est sûr que c'est bien à un moment donné que ce soit encadré pour que ça puisse perdurer. Mais l'élan, il doit se faire du côté des citoyens, je pense. Enfin, et vraiment par des actes de désobéissance.
Donc en 2030 glorieuse, la désobéissance civile, c'est démocratisé et on a compris que c'était pas une opposition stérile, mais au contraire, une déclaration fertile de d'une envie de concrétisation d'un monde meilleur.
J'adore cette expression « déclaration fertile ». C'est exactement ça. L'idée, c'est pas d'être en lutte contre, mais d'être en lutte pour le vivant. Et donc, ouais, j'espère, en fait, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire via des vidéos qui se veulent un petit peu marrantes et qui mettent en lumière aussi les gens qui font déjà. Voilà, de se dire, en fait, on n'a pas besoin d'être expert, on peut tous descendre dans la rue et faire pousser du persil. J'espère que voilà, que ça va se répandre et qu'on aura tous envie de péter un peu de béton pour y faire pousser des tomates ou du persil.
Et qu'est-ce que tu nous souhaites? D'ailleurs, tu parles d'humour. En 2020, nous, les Français, on était le peuple le plus pessimiste du monde, reconnu dans le monde entier pour notre antipathie et notre capacité à manifester dès que l'occasion se présente. Quelle place en 2030 glorieuse pour l'humour, pour la joie dans cette société de demain?
Alors, tu vois, c'est rigolo parce que, alors, je vais encore parler de moi, mais je suis très paradoxale. J'ai un côté très punk, no future. Je suis assez sarcastique parfois, et en même temps, c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir une forme de, comment dire, de m'enlever une forme de pression. C'est-à-dire que je sais que je ne vais pas sauver le monde, la planète, je suis juste là de passage. Par contre, j'ai envie d'être le plus digne et de partir le plus digne possible, d'avoir fait ce que je pouvais faire. Et du coup, ça m'enlève un poids, tu vois, de réussite absolue. Et je me dis, quitte à faire, autant le faire dans la joie et me marrer. Et c'est en ça où, tu vois, j'aime pas trop me projeter trop loin parce que je suis assez pessimiste quand je le fais. Mais par contre, au quotidien, je me dis, voilà, foutu pour foutu, allons-y, quoi. Faisons ça bien et dans la joie, ouais, je me répète, mais tu vois l'idée ?
Ouais, je vois l'idée. Ce que tu me dis, ça me fait penser, tu sais, à ce livre que j'ai pas lu encore, mais dont le titre m'avait fortement interpellé, qui s'intitule « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ».
Ben merci d'en parler, parce que c'est la notion de dignité du présent, c'est exactement de ce dont il s'agit dans ce livre. C'est elle qui parle de ce concept-là. Ouais, c'est un tout petit bouquin qui se lit très vite et qui est extrêmement bien écrit. Et en fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est partir bien et pas partir frustré, ne pas être victime de la situation. On peut se sentir très paralysé et très accablé. Et c'est juste capter qu'on n'est pas obligé d'avoir cette sensation-là, que cette notion de liberté, de pouvoir d'agir, on peut tous l'avoir, c'est juste une question de point de vue.
Moi, c'est du côté de l'Institut des Futurs Souhaitables que j'avais trouvé un peu mon leitmotiv qui dit « au pire, ça marche ». Ça m'avait bien plu de se dire en fait, ah, voilà, on s'enlève la pression, et on a rien à perdre, au pire, ça marche. Et je trouvais que c'était assez mobilisateur comme leitmotiv.
Je suis complètement d'accord, c'est ça. Et en plus, je trouve que ça, tu vois, ça enlève ce poids de la réussite, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se foirer. Et là, on se dit, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on va se foirer. Donc, c'est pas grave, allons-y, quoi. Et ouais, on y retrouve une forme de légèreté comme ça.
J'ai deux questions encore pour toi, Ophélie. La première, c'est, toi, en 2030 Glorieuse, tu es toujours urban farmer ?
Ouais, franchement, j'ai du mal à quitter la ville. J'aime trop cette énergie. Et puis, pourquoi partir à la campagne alors que, pour moi, en fait, je trouve ça très important qu'il y ait des néo-ruraux qui repartent vivre à la campagne. Mais moi, j'ai aussi envie qu'on sanctuarise certains espaces naturels et qu'il n'y ait pas d'hommes, en fait, et qu'on laisse tranquille la nature. Et j'aime me dire que, finalement, la ville, si j'arrive à la rendre un peu plus agréable pour toutes et tous, bah pourquoi la quitter, quoi ?
Et ma dernière question, c'est, on a échangé, ça fait plus de 40 minutes qu'on échange, il y a plein de concepts que tu as évoqués, plein d'expériences enthousiasmantes qu'on a envie de dupliquer, tu as ouvert des caps, et je pense que les gens qui nous ont écoutés vont avoir envie de creuser les lectures que tu as proposé, ils vont avoir envie d'aller se renseigner sur ta chaîne avec ton bouquin, etc. etc. Et en attendant, dès demain, ils auront à remarcher ou à peut-être faire un premier pas vers ces caps, justement, et à concrétiser cette envie de passer à l'action. Qu'est-ce que tu leur recommandes ? Quelle serait la première action à mettre en place pour que, justement, ces gens puissent marcher vers tes utopies réalistes ?
On parlait tout à l'heure de fissures, de murs, et en fait, c'est vraiment, pour moi, changer de regard. Donc, c'est se poser 5 minutes dans son espace et observer la nature et la vie même, hein, les insectes. Maintenant, avant, je ne les voyais pas, mais je vois maintenant des bourdons sur le boulevard de Magenta et ça me fascine. Donc, quelque part, ce n'est pas forcément rentrer dans une formation, enfin, pas forcément se lancer tout de suite dans des grands trucs, mais juste se poser 2 minutes et regarder autour de soi et observer en fait qu'il y a de la vie partout, que ça grouille. Et une fois qu'on a compris ça, on peut en prendre soin. En faisant des formations, en se reconvertissant, tu vois. Mais ça, c'est une autre histoire.
Merci Ophélie.
Merci à toi.
Et voilà, cette émission avec Ophélie d'emblée est terminée. Je vous invite vraiment, moi, à aller creuser, dévorer, parcourir en tout cas tout le contenu proposé par Ophélie, que ce soit sur ta mère nature, avec son bouquin dont on a parlé, de Green Guerilla. Il y a vraiment un humour, un ton décalé, une énergie que vous avez, je pense, pu ressentir lors de cet échange. Puis vraiment, moi, ce que je voulais montrer en invitant Ophélie, c'était cette capacité à oser questionner autant le fond que la forme de notre société, de notre développement, de notre relation à la nature, au vivant, et donc que ce soit la place de la nature, de la flore en ville, mais aussi la place de la femme, notamment dans nos sociétés. Et je trouve que le lien qu'elle fait est passionnant, et j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous retiendrez cette envie de remettre la joie comme une quête, comme une boussole de nos vies. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident en France. On a vite tendance à être catégorisé dans la case des naïfs quand on se met à parler ouvertement de joie, de bonheur. Alors qu'en fait, pas du tout. Je pense que c'est même une résistance, une manière de désobéir, de se raccrocher à ce qui fait vraiment qu'on est vivant, qu'on a une chance unique d'être sur cette terre. Bref, je suis vraiment très heureux que vous ayez pu passer cet excellent moment avec nous et je vous dis à très vite. Salut !
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !